On commence tout de suite avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les États-Unis donnent décidément le tempo diplomatique. Donald Trump a annulé hier le sommet historique qui devait le placer face au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin à Singapour. La dénucléarisation de la Corée du Nord est-elle revenue au point mort ? Analyse à suivre dans un instant. Nous irons à Séoul et à New York.
Après l'acier et l'aluminium, début mars, Donald Trump s'en prend maintenant à l'automobile. Le président américain a demandé l'ouverture d'une enquête sur les voitures importées qui pourraient être taxées jusqu'à 25%. La guerre commerciale semble bel et bien déclarée. Ce sera le thème du billet économique d'Annabelle Grelier à la fin de ce journal.
À la une également, l'impuissance de l'Union européenne face au futur gouvernement populiste en Italie. Et puis en France, les syndicats de cheminots sont de retour à Matignon. Ils rencontrent ce matin Édouard Philippe pour parler de la réforme ferroviaire. Il justifie sa décision en dénonçant l'hostilité du régime nord-coréen. Après plusieurs jours d'atermoiement, Donald Trump a finalement décidé hier d'annuler le sommet prévu le 12 juin prochain à Singapour avec le maître de Pyongyang, Kim Jong-un. Cette décision survient le jour même où la Corée du Nord procédait au démantèlement de son site d'essai nucléaire de Punjiri. Gage de bonne volonté, expliquait Pyongyang avant de discuter avec Washington. Cette annulation soulève de nombreuses questions sur la poursuite de la dénucléarisation et du dialogue pour la paix sur la péninsule coréenne. Frédéric Ojardias, vous êtes le correspondant d'RFI et de France Culture à Séoul. Comment la décision de Donald Trump a-t-elle été reçue en Corée du Sud ?
Eh bien, le gouvernement sud-coréen semble avoir été pris par surprise par la décision américaine. Hier soir à minuit, le président sud-coréen Moon Jae-in a convoqué en urgence une réunion de son Conseil national de sécurité. Sur une photo, on voit Moon Jae-in, les traits tirés, inquiet, un visage qui en dit long sur l'ambiance à Séoul. Le président sud-coréen s'est dit perplexe et triste. Il a appelé les dirigeants américains et nord-coréens à reprendre le dialogue. Il faut rappeler que ce sommet avait été organisé grâce au rôle de médiateur de Moon Jae-in, qui fait des efforts monumentaux depuis un an pour relancer le dialogue avec le Nord, pour trouver une solution à la crise nucléaire et pour éviter un conflit armé. La décision de Trump donne l'impression de torpiller tous ces efforts. Washington se révèle être un allié très peu fiable et on peut s'attendre à de graves turbulences dans l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis dans les prochains mois, d'autant plus qu'une majorité de Sud-Coréens soutenait ce sommet et soutient toujours le processus de dialogue en cours.
Et ce matin, Frédéric, la Corée du Nord peut même s'offrir le beau rôle.
Oui, tout à fait. Comme le souligne le quotidien Hankyore ce matin, la Corée du Nord a rempli sa part du contrat. Elle a démantelé hier son site d'essai nucléaire comme elle s'y était engagée. Il est difficile de comprendre pourquoi les États-Unis ont répondu en annulant le sommet, s'interroge le journal. Ce matin, le régime se permet des déclarations très mesurées. Il adopte une posture en faveur du dialogue et se dit toujours disposé à un sommet avec Donald Trump. Mais Pyongyang a à présent le soutien de la Chine. La Corée du Sud aussi devrait se montrer beaucoup plus flexible et la position de négociation des États-Unis s'en trouve donc très affaiblie.
Frédéric Ojardias, merci pour ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, correspondant d'RFI à Séoul pour France Culture. Et maintenant donc que le sommet du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un a été annulé, que va-t-il se passer ? L'entreprise de dénucléarisation de la péninsule coréenne est-elle revenue au point mort ? Pour tenter de le savoir, direction Washington avec vous, Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Grégory, l'envoyé permanent de France Culture aux États-Unis. De quelle marge de manœuvre disposent encore les États-Unis pour tenter de convaincre la Corée du Nord de se dénucléariser ?
Écoutez, des marges de manœuvre, il y en a encore. Le problème, c'est le temps qu'il reste avant le 12 juin, cette date qui avait été retenue pour ce sommet. On a perdu beaucoup de temps, nous confiait hier soir un officiel de la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois eu une absence totale de communication entre les deux pays ces dernières semaines. Ce même responsable raconte que, par exemple, il y a quelques jours, un rendez-vous préparatoire au sommet de Singapour avait été fixé à Singapour. La délégation américaine était présente, mais les Nord-Coréens n'ont, selon la Maison-Blanche, jamais donné signe de vie. Donc, parmi les marges de manœuvre, il faudrait un changement d'attitude de la part des officiels nord-coréens. C'est en tout cas le point de vue américain. Il faudrait aussi que Pyongyang tienne ses promesses. Normalement, il devait y avoir un sommet avec les Sud-Coréens, mais il a été annulé sous prétexte de récentes manœuvres militaires conjointes entre États-Unis et Corée du Sud. Autre promesse non tenue, aucun expert sérieux n'a pu assister aux opérations de démantèlement des sites nucléaires. Enfin, et c'est sans doute le point le plus important, ce que les Américains veulent, c'est une dénucléarisation totale et vérifiable si Pyongyang évoluait sur tous ces points. Alors le sommet ne serait peut-être pas complètement mort. Hier d'ailleurs, Donald Trump a laissé la porte légèrement entrouverte pour le 12 juin ou pour plus tard. Maintenant, la balle est dans le camp des Nord-Coréens. C'est au-delà de la lettre adressée par Trump à Kim Jong-un, le message que la Maison-Blanche cherche à faire passer aujourd'hui.
Grégory Phillips, merci. Vous étiez en direct ce matin de New York pour France Culture. Et sur l'échiquier géopolitique, Emmanuel Macron a plaidé une fois de plus pour le multilatéralisme, pour apaiser les tensions dans le monde lors de sa première journée de visite en Russie hier, aux côtés de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Le président français a tenté de se tourner avec confiance vers l'avenir.
Mon souhait, c'est que le processus engagé de diminution de la tension dans la région, de diminution du risque et d'engagement vers un processus de non-prolifération et de dénucléarisation puisse se poursuivre. La Chine a joué un rôle important ces derniers mois. Je pense que la Chine continuera à jouer ce rôle. La France est totalement disposée à aider et à œuvrer. Mais je pense que c'est à la communauté internationale tout entière, dans le cadre multilatéral, et sans doute les Nations Unies ont-elles, dans ce contexte, un rôle tout particulier à jouer, à œuvrer. Et donc, je souhaite que ce ne soit qu'une péripétie dans un processus qui doit se poursuivre, indispensable pour la région.
Emmanuel Macron hier en Russie, propos recueillis par Bertrand Galichet, le chef de l'État français qui a assuré par ailleurs hier à Vladimir Poutine de vouloir avancer avec lui aussi bien sur le nucléaire iranien, la Syrie et l'Ukraine, tout en appelant le président russe à la responsabilité liée à son rôle renforcé sur la scène internationale. Sur le nucléaire encore donc, mais versant iranien cette fois, Téhéran continue de respecter l'accord de 2015, c'est ce qu'a indiqué hier l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA, qui dans un rapport considère toutefois qu'une coopération proactive et rapide de la part de l'Iran pour fournir un accès à ses inspecteurs pourrait améliorer la confiance. L'Iran, l'Union européenne, la Chine et la Russie se réunissent aujourd'hui à Vienne pour faire le point sur leur tentative de sauver l'accord nucléaire conclu en 2015 avec Téhéran, mais sans les États-Unis qui se sont donc retirés de l'accord le 8 mai dernier.
Vous écoutez les Matins de France Culture, il est 7h07 et c'est la suite du journal de Catherine Dutuis. C'est à partir de 8h ce matin que les syndicats de la SNCF seront reçus à Matignon.
Pour revoir le Premier ministre Édouard Philippe qui doit préciser le niveau de reprise de la dette du groupe par l'État, le montant des investissements également auxquels l'État pourrait consentir et son rôle dans les négociations de la branche ferroviaire. On y revient dans le journal de 7h30. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu hier soir en visite éclair dans un commissariat des quartiers nord de Marseille, promettant de faire régner l'État de droit dans tous les quartiers. Visite éclair trois jours après l'irruption d'un commando armé dans une cité marseillaise. Alors que Giuseppe Conte a entamé hier des consultations pour composer son futur gouvernement en Italie, objet, on le sait, d'âpres négociations entre le mouvement 5 étoiles qui se dit anti-système et la Ligue, parti d'extrême droite, face au programme populiste des deux partis qui ont déjà prévenu Bruxelles, qui n'hésiterait pas à creuser le déficit italien pour relancer la croissance, dépenses en hausse et relance keynésienne. Les Européens, eux, ont peu de moyens de pression sur Rome, beaucoup moins, d'autant plus depuis la dette opérée par la Grèce. Écoutez l'analyse d'Éric Dor, directeur des études à l'école de management, l'ISEG.
C'est beaucoup plus compliqué, parce que si on prend par exemple la dette italienne, c'est 2 000 milliards. Qui oserait pousser l'Italie vers la sortie de la zone euro et le défaut avec une dette pareille ? Rien que l'exposition des autres banques européennes sur l'Italie est énorme. D'après la banque des règlements internationaux, l'exposition des banques françaises à la dette publique italienne, c'est plus de 50 milliards d'euros. En Allemagne, l'exposition est très élevée aussi. En Espagne, elle est très élevée. Donc, peut-on prendre le risque, comme on avait pu le faire avec la Grèce, de mettre l'Italie en dehors de la zone euro ? C'est beaucoup moins évident. C'est là-dessus que tablent les nouveaux dirigeants italiens, hein, donc les gens de la Lega et les gens du mouvement 5 étoiles, c'est de dire vous ne pouvez pas nous faire ce que vous avez fait à la Grèce parce que nous représentons un poids politique et économique beaucoup plus important. Donc c'est là qu'on se trouve là dans un terrain un petit peu non exploré. On ne peut plus traiter l'Italie comme on avait pu traiter la Grèce. Ce qui explique d'ailleurs la nervosité qu'on peut avoir à Bruxelles là-dessus, c'est que si l'Italie défie vraiment, comme elle a l'air de l'affirmer, les règles du pacte de stabilité, son pouvoir de négociation est beaucoup plus fort.
Éric Dor, directeur des études à l'école de management de l'ISEG, il répondait à Marie Viennot. C'est une première dans l'Union européenne. 11 familles attaquent en justice le Parlement et le Conseil européen. Ces familles reprochent à l'UE d'avoir échoué à protéger les citoyens face à la menace du réchauffement climatique. Cette plainte a été déposée hier devant la Cour européenne de justice par des familles européennes, kenyanes et fidjiennes, qui sont victimes de sécheresse, de la fonte des glaciers, d'inondations désormais à répétition. Ces familles estiment insuffisante la politique de lutte contre le réchauffement climatique de l'Europe. Le plaignant français est un producteur de lavande, originaire de Grignan, dans la Drôme, Véronique Roberotte.
Maurice Féchet, 72 ans, producteur de lavande dans la Drôme, préfère le dire d'emblée. Il ne demande rien pour lui, pas d'argent, seulement que l'Union européenne fasse beaucoup plus dans la lutte contre le dérèglement climatique, un dérèglement qui affecte ses champs de lavande un peu plus chaque année.
Les 10 dernières années, on a eu des aléas climatiques tels que de 25 hectares, on est passé à 5 hectares en 3 ans successivement avec des périodes de trop de pluie ou trop de sécheresse ou des gels de printemps. Vous voyez, donc il devient compliqué de vivre de cette culture. Si vous voulez, bon, le but c'est pas tellement nous directement, mais c'est en fait pour nos enfants et nos petits-enfants.
Pour Marie Toussaint, juriste en droit international de l'environnement, à l'initiative de cette plainte, la société civile se doit de veiller à ce que les engagements internationaux soient bien respectés, ceux de l'Union européenne en premier lieu.
L'Union européenne, c'est le niveau où sont décidés les engagements climatiques des États membres de l'Union européenne. C'est aussi l'acteur qui parle sur la scène internationale dans les négociations climatiques. Et donc, c'est bien à elle que revient la responsabilité de fixer des ambitions plus hautes de lutte contre le réchauffement climatique de manière à protéger à la fois ses ressortissants internes, mais aussi sa responsabilité sur la scène internationale à l'égard de tous les citoyens du monde.
Les familles estiment notamment que les objectifs de l'Union européenne à l'horizon 2030 de baisser de 40% ses émissions de gaz à effet de serre sont insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat.